Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais, il en fera même de plus grandes, parce que je pars vers le Père. Ces paroles du Christ, qui nous sont données très simplement par l'Évangile du jour, nous permettent, je pense, de rejoindre aussi le mystère de la charité et le mystère de cet attachement de Vincent de Paul à la formation des prêtres. Vous me permettrez d'abord, sans vouloir jouer à l'historien, de rappeler quelques éléments simples de ce qu'il a pu vivre et accomplir, guidé par l'Esprit-Saint. Et puis je reviendrai sur ces propos du Christ pour précisément essayer d'aller au cœur de ce que M. Vincent peut nous partager en ce jour et en ces temps qui sont les nôtres. Un peu d'histoire, je dirais simplement qu'ayant potassé il y a quelques années les vies de nos fondateurs, de nos inventeurs des séminaires, il y a une petite chose qui disparaît en règle générale des biographies contemporaines de nos grands fondateurs, mais qui se trouve dans les vies anciennes, les premières vies écrites. En 1609, il y a eu une retraite, et une retraite c'est secret, donc ça passe très vite inaperçu et ça disparaît des livres d'histoire, voire ça n'y apparaît même pas. Mais un jour, en tout cas, il y a eu une retraite où M. Vincent, Pierre de Bérulle et Adrien Bourdoise ont ensemble prié et médité sur le thème du sacerdoce. Et cela bien des années avant que Troyes devienne les inventeurs, en quelque sorte, de ce que nous appelons aujourd'hui dans l'Église universelle, donc cette invention a quand même eu beaucoup d'effets, ce que nous appelons des séminaires. Imaginons-nous, au fond, qu'en ce début du XVIIe siècle, des prêtres à Paris ou ailleurs, ils ont, dans le meilleur des cas, des grades universitaires à chercher. Autrement dit, pour des Parisiens, ils vont faire leur théologie à la Sorbonne. Et puis une fois qu'ils ont le bac en poche, le bac de théologie, le bac français n'existe pas à l'époque où ils ont le bac de théologie, eh bien, ils se présentent un jour pour être ordonnés à un évêque. Ce n'était pas plus compliqué que ça. Et en général, à cette époque, après 30, on commençait à leur faire quand même passer un examen avant de leur imposer les mains pour vérifier qu'ils avaient à peu près compris le credo et qu'ils savaient ce qu'était un sacrement. Bon. Et alors, tout ça pouvait donner un clergé relativement nombreux, hein. De nos jours, nous rêvons devant les chiffres du nombre de prêtres dans notre royaume et même dans d'autres pays d'Europe. Tout ça donnait des prêtres, mais comme dira M. Vincent, il y a quand même des mauvais prêtres. Et il y en a des bons, ajoutait-il. Il essayait d'en faire. Des mauvais prêtres, allez donc savoir ce que c'est. Quand il essaye de détailler, il dit, voilà, des gens qui ne sont pas forcément très intéressés par le don de la grâce aux autres et par justement cette croissance de la vie surnaturelle chez les autres. Alors c'est pour travailler sur ce sujet que nos trois hommes inventeront chacun les premiers séminaires de Paris. Pierre de Bérulle, c'est un peu le maître de toute cette génération sur le plan spirituel, lui a voulu vraiment créer une théologie du sacerdoce dans l'image du Christ, d'un Dieu qui se fait chair et qui se donne précisément en offrant en sacrifice à son Père. Et Bérulle a fondé là toute une compréhension du sacerdoce qui va devenir ce qu'on appelle l'école française, qui va inspirer tous nos grands maîtres spirituels des siècles suivants. Bérulle, lui, fondera la congrégation de l'oratoire, qui restera une petite élite, si j'ose dire, une petite société de prêtres, mais qui aura son rôle son séminaire à Saint-Magloire, rue Saint-Jacques. Et puis Adrien Bourdoise sera le premier, chronologiquement, à fonder dans une petite paroisse, Saint-Nicolas du Chardonnay, a fondé dans cette paroisse un séminaire où, à ce bon bachelier de la Sorbonne, on leur apprenait à célébrer la messe, à célébrer un baptême, à acquérir l'art du bréviaire, et ainsi de suite. Et c'est chez Bourdoise, à Saint-Nicolas, qu'il y a vraiment le premier séminaire de Paris. Et puis M. Vincent ira un peu plus doucement, mais lui aura en propre, dans ces mêmes années, il faut ajouter un quatrième qui est disciple des autres, c'est M. Ollier qui fondera le séminaire Saint-Sulpice, qui très vite d'ailleurs deviendra le grand séminaire de la faculté de théologie de la Sorbonne et formera aussi de beaucoup de prêtres et de futurs évêques français. Mais M. Vincent aura en propre d'abord d'essayer de réformer les prêtres déjà ordonnés, et c'est pour cela qu'il inventera ces fameuses conférences du mardi. Il réunissait les prêtres qu'il le voulait bien pour une journée de recollection, en quelque sorte, une journée où il y avait les entretiens de M. Vincent pour les édifier, et puis on pouvait prier, se confesser, réfléchir ensemble, discuter les conférences de M. Vincent. Et puis, à force de faire des conférences, ils se diront avec Bourdoise, avec les autres, qu'il fallait faire des grandes retraites avant l'ordination. Donc, on fera des retraites de 15 jours. Et puis, à force de faire des retraites de 15 jours, on se dira qu'un an de formation, ça serait pas mal, puis 2 ans, puis 3 ans. Et c'est comme ça que les séminaires sont nés, en tout cas chez nous, et que petit à petit, c'est devenu un principe même de base dans l'Église universelle, de former ainsi les prêtres. Le propre de M. Vincent, donc, sera qu'il a d'abord fondé sa congrégation pour la mission des pauvres gens dans les villes, mais aussi dans les villages, dans toute la France. Il aura donc le souci de former des prêtres non seulement spirituellement enracinés dans le Christ, mais de les former à la mission véritable. Il voulait que les prêtres s'occupent des pauvres, et il aura le souci de former des prêtres capables de s'occuper de la population, des pauvres gens, entre guillemets. Tout le monde n'est pas forcément pauvre. Le sens pauvre, d'ailleurs, n'étant le mot pauvre étant pris au sens très large, nous avons tous nos pauvretés, et il fallait aider tout le monde. Et M. Vincent formera autant de prêtres missionnaires, mais aussi de nombreux évêques de France, d'autant plus qu'étant entré au Conseil de conscience du roi, il se retrouvera au Conseil qui nommait les évêques dans le royaume. Donc, ça lui donnait une certaine influence pour le bien. Alors, tout ça, c'est bien gentil, vous allez me dire, une belle page d'histoire. Il a dit un jour, M. Vincent, je vous dirais que cela m'a consolé en préparant, il a dit « c'est un chef-d'œuvre en ce monde que de faire de bons prêtres ». Donc j'ai découvert qu'étant formateur de prêtres, j'étais un grand artiste qui faisait des chefs-d'œuvre. J'espère que c'est vrai, mais enfin bon. C'est un grand chef-d'œuvre de former des prêtres, sans aucun doute, car il en faut en notre monde. Les lazaristes dirigeaient 60 séminaires en France à la Révolution française. Après, ça a eu du mal à renaître, mais quand même une 60aine de séminaires en France. Il y en avait déjà 10 à la mort de Saint-Vincent de Paul. Alors, avec tout cela, je reviens à notre évangile. Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais, il en fera même de plus grandes, parce que je pars vers le Père. Avec M. Vincent, nous pouvons unir précisément, toujours tenir ensemble, ce mystère de la foi et ce mystère de la charité. J'ajouterai l'espérance, avec cette petite proposition de tout à l'heure, de faire confiance en la Providence, de ne pas l'enjamber, de ne pas la devancer, ce qui est toujours notre tentation, mais d'unir la vérité des œuvres, ce qui restera toujours justement dans ce regard du Christ sur le sacerdoce, c'est que voilà, nous sommes des prêtres, et il y a des prêtres au service du peuple de Dieu, mais il faut qu'ils soient véritablement au service du surnaturel, de notre foi, de la foi de toute l'Église. J'oserais dire tout simplement comme image, je regardais quelques instants hier soir les images du pape à Fatima, ce long moment de prière en silence du pape arrivant devant la statue de la Vierge de Fatima, c'est une image de foi, du mystère de la foi et de cette grande foule qui se tait parce que le pape se tait et que tout le monde comprend que c'est le moment de prier. C'est un grand mystère que celui de la foi qui peut nous unir et nous sommes au service de cette foi. Et en même temps, ne soyons pas uniquement, entre guillemets, le terme est horrible, hein, parce qu'il n'est pas gentil pour les fonctionnaires, mais soyons pas fonctionnaires de la grâce, il faut avoir du respect pour les fonctionnaires. Hein. Excusez-moi de dire ça, c'est une évidence, mais quand même. Donc ne soyons pas uniquement en train de faire des trucs, aussi indispensables soient-ils, mais soyons bien au plus profond de notre cœur dans ce surplus gratuit du don pleinement de soi au service de tous. Cela vaut dans notre sacerdoce baptismal pour nous tous, cela vaut en particulier pour notre sacerdoce ministériel de prêtre, cela vaut dans cette figure aussi de diacre au service de la communauté. Lorsque je contemple ces figures de jeunes qui veulent entrer dans la formation, eh bien, il y a toujours lieu de se dire, voilà, est-ce qu'il est capable de cette gratuité au-delà du faire, de la correspondance, des cadres dans lesquels on peut s'efforcer d'entrer, des aptitudes, est-ce qu'il fera ça bien? Mais il faut toujours vérifier qu'il y a ce plus du don de soi, ce quelque chose de la gratuité qui fait que, voilà, un jeune peut s'embarquer dans une quand même grande aventure, car c'est un grand mystère qu'un prêtre, et dans cette grande aventure, pour toute la vie, et il y a la réserve de l'abandon gratuit qui fera qu'on pourra toujours avancer, justement, avec le Christ. Il m'arrive de citer, je reviens à une référence historique, hein, mais pour prendre un autre contemporain quelques années avant, on a demandé un jour à Saint François de Sales pourquoi il ne s'occupait pas de formation des prêtres. Parce qu'il était évêque, et de fait, relevons-le aussi, ce sont des prêtres qui ont inventé les séminaires et réformé les prêtres en France après le Concile de Trente. Les évêques ont eu du mal, oserais-je dire, ils ont fini par prendre le train en marche. La grande victoire morale de tous nos amis, c'est qu'en 1633, l'archevêque de Paris, Monseigneur de Gondi, rendra le passage dans les maisons de formation obligatoire pour les prêtres du diocèse. C'était, voilà, ça avait marché, si j'ose dire. Mais on demandait un jour à Saint François de Sales pourquoi il avait, au fond, pas fait grand-chose dans ce domaine. Et il avait répondu cette parole terrible, « J'ai essayé plusieurs fois de former un prêtre, je n'y suis jamais parvenu. » Alors c'est peut-être une remarque pleine d'humilité et un peu trop d'humilité de sa part, mais ça dit aussi que ce n'est pas si simple que ça. Alors demandons au Seigneur, dans la foi et la charité, et bien que nous puissions de fait grandir dans notre sainteté du peuple de Dieu, dans notre sainteté sacerdotale, d'avancer dans cette confiance, en cette promesse du Christ, que des œuvres, nous pourrons toujours en accomplir, que entrer dans la gloire du Père, confier dans le Fils, cela est bel et bien possible, et que nous sommes véritablement dans les mystères que nous célébrons, dans l'Eucharistie que nous célébrons, dans cette relation personnelle avec le Dieu trois fois saint, en toute vérité, et qu'il nous faut fuir tout ce qui dans la vie paraît la réalité, mais ne l'est pas tant que ça, pour nous attacher à la vérité de Dieu. Amen.